Et les années 2000, eh bien, c'est la resynchronisation. Et c'était tout à fait normal qu'on s'intéresse à un autre élément non médicamenteux, qui était l'apnée du sommeil, avec tous les arguments que nous a donné Marie. Et par contre, si on regarde ce qui se passe dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, il n'y a pas eu ces progrès. Hein, et donc, oui, c'est fréquent, c'est tout aussi grave, et c'est un domaine où on a besoin de progrès. Alors, ben voilà, quelques exemples. Donc, ça, c'était les chiffres de l'IRB Sartan, que je vous ai déjà montré. Vous voyez, hein, donc, beaucoup de déceptions, hein, alors qu'il y avait des arguments physiopathologiques solides pour penser que peut-être les Sartans étaient intéressants dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, parce que le côté délétère de la stimulation du système rénine-angiotensine est évident. Et bien, pourtant, ça n'a pas marché. Les bêta-bloquants, eh bien, les bêta-bloquants, il y a l'étude senior où on a espéré avoir un peu un bénéfice, mais c'est une étude qui n'a pas convaincu parce qu'on a mélangé des fractions d'éjection altérées et des fractions d'éjection préservées. Hein, et donc, les bêta-bloquants n'ont pas non plus passé le cap dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et puis, la dernière, c'est donc l'étude TOP4, qui est une étude qui a été présentée en 2013 à l'American Heart avec les spironolactones. Et là aussi, non significatif, un bénéfice non significatif pour plusieurs raisons. Donc, on en est encore, là c'est des recos de 2009, parce que je trouve qu'elles sont particulièrement claires, mais la base reste la même. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, actuellement, chez nos patients en insuffisance cardiaque préservée? Eh bien, on doit contrôler l'hypertension artérielle. On doit contrôler la fréquence ventriculaire chez les patients en fibrillation atriale. On doit utiliser les diurétiques. Donc, c'est trois recommandations de niveau 1, si on veut les contrôler. Et puis, le dernier point, en niveau 2A, c'est se méfier d'une cardiopathie ischémique et avoir la coronarographie facile. Donc, l'hypertension artérielle, la fibrillation atriale et la cardiopathie ischémique, trois comorbidités associées à la fibrillation, à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc, il faut s'intéresser aux comorbidités, mais on n'est pas vraiment sur le traitement de fond. Et le traitement de fond, eh bien, il n'y en a qu'un, c'est les diurétiques. Alors, qu'en est-il là-dedans, du syndrome d'apnée du sommeil? Eh bien, même si l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée est parfaitement équilibrée, l'apnée du sommeil d'origine centrale, elle est fréquente chez ces patients, 30% des patients, elle est de mauvais pronostic. On ne connaît pas l'intérêt de la correction des apnées centrales par la ventilation asservie dans cette population, en effet, parce que cette population n'a pas été étudiée dans CERVA-CHEF. Alors, par exemple, une étude qui est intéressante parce qu'elle a été systématique, c'est-à-dire qu'on a pris des patients qui avaient une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on a recherché l'apnée du sommeil, et donc elle était définie par un critère dur, 5 apnées par heure, donc du coup on est à 69% des patients. Vous voyez la proportion d'apnée centrale et d'apnée obstructive dans cette étude, mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en ayant cherché de façon systématique, donc on avait même exclu les patients chez qui le diagnostic était déjà connu, eh bien on montre que toutes les mesures de la gravité de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée sont aussi parallèles à la gravité du syndrome d'apnée du sommeil. Donc une association solide sur une étude très rigoureuse qui étudie des paramètres échographiques, des paramètres biologiques, des paramètres hémodynamiques, et concernant l'apnée du sommeil et l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Une autre étude qui paraît intéressante, c'est le registre FACE. Ce registre FACE avait été lancé pendant Servachev, hein, et concernait tous les patients qui bénéficiaient d'une ventilation asservie. Hein, là, il y a eu des premières sous-études sur 361 patients. Et vous voyez que si on prend les critères de 45%, eh bien, on a et des patients qui ont une fraction d'éjection altérée, et donc qui ont été concernés, bien sûr, dans FES où on a dû arrêter, et des patients qui avaient une fraction d'éjection préservée, hein, et donc qui bénéficiaient de l'ASV. Et quand on voit la proportion de ces patients, il y avait 35% des patients de FES qui ont une fraction d'éjection qui est conservée. Et donc, quand vous regardez la sévérité des patients, hein, vous voyez que bon, mais c'est des patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil qui est sévère, hein, que l'on prenne les index ou le temps de désaturation. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure les courbes, mais pour pouvoir, dans ce registre, essayer de savoir qu'est-ce qu'il en est de l'intérêt de l'ASV dans la population de la fraction d'éjection préservée, avec toutes les limites d'un registre, on a considéré que la compliance ou non avec l'ASV qui était proposée au patient, hein, pouvait servir de groupe contrôle. En effet, la question qui est posée, eh bien, où on en est des études concernant l'intérêt de l'ASV dans l'insuffisance cardiaque fraction d'éjection préservée, on a très très peu. Il y a juste une étude randomisée de petite taille de 2013 et il y a le registre facile dont on va parler aujourd'hui et que va nous présenter Jean-Claude Meriris qui cherche à répondre à cette question. Là, déjà, si on prend les FACE, hein, j'aime beaucoup cette courbe. Alors là, vous avez donc 2 ans de suivi. Vous avez la probabilité, hein, d'absence survenue d'événements. Et vous avez ici 4 courbes. Vous avez les patients qui sont donc considérés comme contrôle ou les patients qui sont considérés comme traités. Et il y a les patients de type Servachev et les patients de type non-Servachev. Les non-Servachev, c'est ceux qui ont la fraction d'éjection préservée. Les types Servachev, c'est ceux qui ont la fraction altérée. Eh bien, quand on regarde ces contrôles-là, on se rend compte que, sans surprise, dans le registre de FACE, hein, les patients qui étaient compliants à l'ASV ont eu un pronostic moins bon que les patients qui n'étaient pas compliants à l'ASV quand ils avaient une fraction d'éjection altérée, de type Servachev. Et au contraire, les patients de type non-Servachev, donc à fraction d'éjection préservés, ceux qui étaient très compliants ont eu un meilleur pronostic que ceux qui n'étaient pas compliants qui ont servi de type contrôle. C'est une indication, hein, mais ça montre qu'en tout cas, la fraction d'éjection peut montrer une grande différence selon qu'elle est préservée ou non préservée. Hein, mais, encore une fois, c'est un registre et on n'est pas du tout dans une étude randomisée. Comme je vous disais, il n'y a qu'une seule étude randomisée, hein, 36 patients, dont 18 de chaque côté, suivi 18 mois, donc 18, 18, 18, c'est facile à retenir. Hein, et donc, cette étude a montré et donc un bénéfice, quand on compare les 18 patients sur 18 mois, sur la classe NYHA, sur le BNP. Hein, par contre, pas de modification des fractions d'éjection, mais elles étaient déjà normales, vous êtes trop bonnes. Et beaucoup plus d'événements chez les patients qui n'avaient pas d'ASV que chez les patients qui avaient des ASV et hein, qui n'ont pas eu d'événements. Donc, la question est ouverte. Hein, une toute petite étude randomisée, quelques orientations de nos registres et surtout, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée est un domaine de grande incertitude où on a un besoin de santé. Il y a un besoin non couvert. Donc on a besoin de pouvoir avoir une solution pour nos patients. Merci beaucoup.